Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voici donc en ce premier dimanche de carême à inaugurer un cycle d'exhortation pour que nous puissions nous rapprocher du Christ et communier avec fruit au matin de Pâques. Que nous puissions l'écouter dans ce qu'il nous a révélé de la volonté de son Père, pour que nous puissions nous sanctifier et avancer pendant ces 40 jours jusqu'à la montagne du Calvaire pour arriver à la béatitude, à ce mont des béatitudes couvert d'herbes fraîches où l'on peut se reposer après la dure montée du Calvaire. Et c'est la raison pour laquelle, pour ne pas nous mentir, nous allons méditer sur la signification de la souffrance, du fait du péché originel et dans des différents aspects qui nous ont été donnés dans la révélation. En effet, la souffrance du Christ lors de son agonie au Jardin des Oliviers, lorsqu'il pleure avant même sur Jérusalem, lorsqu'il est frappé et qu'il est flagellé, lorsqu'il est crucifié et lorsqu'il voit sa mère au pied de la croix, dont l'âme est transpercée par le glaive de douleur annoncé par Siméon, c'est bien la question même de notre souffrance et de sa signification qui est un thème même du carême et de notre sanctification pour arriver jusqu'au matin de Pâques et à la victoire sur le péché, mais aussi sur la maladie et sur la mort. Lorsque ce thème de la souffrance, souffrance physique, souffrance morale, souffrance spirituelle, est abordé, nous pouvons parfois considérer un peu facilement qu'il est l'occasion de conversion, qu'il est l'occasion pour ceux qui souffrent d'arrêter une vie trop tranquille, trop prospère et insouciante, et que cela permet presque nécessairement de creuser son âme et de devenir spirituel. Cela nous fait oublier que la souffrance reste un scandale, c'est-à-dire une occasion de chute. La souffrance est insupportable, c'est un mal, c'est quelque chose qu'on ne peut souhaiter. C'est la raison pour laquelle il nous faut, dans cette première conférence, où nous appellerons à notre secours la souffrance de la Vierge Marie, tout d'abord, dans un premier temps, parler de cette conséquence du péché qu'est la peine. Cette peine, c'est le mal qui suit un désordre, une désobéissance à la vérité, à la bonté. Cette désobéissance, elle s'appelle péché, elle s'appelle chute. Lorsqu'on ne croit pas, lorsqu'on se méfie, lorsqu'on se défie de l'amour de Dieu, créateur et bienveillant. Nous mettrons de côté celui qui est totalement athée et qui considère que tout se passe par hasard. Mais tournons-nous vers celui qui est agnostique et qui interroge les croyants en leur demandant pourquoi il y aurait pour conséquence du péché la souffrance. Cette grande question du mal, cette grande question des conséquences du péché. Eh bien, avec un peu de prétention, nous osons dire que lorsque nous désobéissons à une loi vraie et bonne, il y a forcément une conséquence. Cette conséquence, c'est celle de celui qui veut absolument continuer son chemin alors qu'il y a des ravins, alors qu'il y a des pierres, alors qu'il y a des torrents. Il est déraisonnable celui qui affirme qu'il ses dangers ne le toucheront pas et qu'il sera en quelque sorte tout puissant et qu'il va surmonter la loi de la gravité et les lois de la nature. Il est déraisonnable celui qui par plaisir va être intempérant dans le manger et dans le boire et qui, au jugement des médecins les plus, sans être les plus ascétiques ou les plus exigeants, va être malade parce que les organes de son corps ne pourront supporter l'excès de boissons, l'excès d'alcool. Tout cela, ce sont des lois corporelles, mais la loi morale est un avertissement de bien user de notre corps animé par un esprit capable de comprendre et d'aimer un être de relation qui veut vivre en paix et en bienveillance avec ce qui l'entoure. Le péché originel d'Adam et Ève est un refus de cette bienveillance, de cette bonté de Dieu. C'est une défiance, c'est une invitation par l'ange déchu, par celui qui est envieux, par celui qui est jaloux de la beauté, de la force, de la puissance et même donc de la bonté de Dieu. Celui qui est jaloux et qui veut entraîner dans sa tristesse de jalousie l'être humain, la personne humaine. Et il y parvient. Dieu est un menteur. Vous ne mourrez pas si vous transgressez, si vous voulez décider vous-même dans la science du bien et du mal. Non, vous ne mourrez pas. Dieu vous ment. Et même, vous serez des dieux. Et on ne peut comprendre les conséquences du péché que si nous avons une humilité dans la foi de recueillir ce dogme et cette vérité historique du péché originel. Car dans le monogénisme, dans le fait d'affirmer dans l'histoire biblique qu'il y a eu un couple unique, il y a non seulement une transcendance par rapport à nos différences génétiques par le temps, par les peuples, de la couleur de notre peau, de nos cheveux qui sont lisses ou tournés. Non, tout cela n'est pas grand-chose devant cette origine première qui fait la mort d'Abel. Ce péché qui révèle à Adam et Ève qu'ils sont nus et qu'ils n'ont pas cette puissance divine et qu'ils seront livrés à la tempête de leur passion, à leur orgueil, à leur jalousie, lorsque Cain tue Abel, lorsque nous ne sommes pas fidèles, lorsque nous ne savons pas tenir nos promesses. Et c'est la raison pour laquelle ce couple originel, cette famille, ces enfants sont là encore pour nous dire le trésor caché de la source de toute bonté qui est cette nature humaine ordonnée dans la vérité, dans la bonté, spécialement dans le mariage et la famille, qui sont attaquées d'une manière toute particulière parce que elle se trouve, cette famille, au cœur même du combat de la foi. Et cette famille et cette fécondité, Dieu l'a voulu en nommant la première femme, Ève, celle qui est la mère des vivants. Et cette Ève qui nous a donné la mort avec Adam, elle devait finalement triompher. La descendance d'Ève devait lui écraser la tête. Alors, cette violence et cette souffrance d'Abel qui meurt sous les coups de son frère, de ses premières maladies, de cette faiblesse du corps humain, à travers les siècles, cette souffrance, souffrance physique, souffrance des enfants, souffrance de ces enfants qui ont des bronchites, des bronchiolites, qui, sous la main des kinésithérapeutes et des médecins, font souffrir le cœur de leurs parents, le cœur de leur mère, à pleurer et à crier et à hurler. Cette souffrance d'une mère, d'un père, qui apprend la mort d'un enfant. Cette blessure de celui qui tient la main d'un malade dans ses derniers moments et dans son agonie. Fallait-il que toutes ces souffrances soient uniquement une conséquence du péché originel, une peine, une punition? Est-ce que Dieu ne pouvait pas, dans sa toute-puissance, transformer cette souffrance? Voilà ce qu'il nous a donné. Voilà la cause de ce carême. Et qui va nous donner cette occasion de vaincre cette malédiction, cet acte de condamnation, comme nous le dit saint Paul? C'est la nouvelle Ève. Et cette nouvelle Ève, elle est toute particulière, et son triomphe s'enracine dans les mérites infinis de son Fils. Les mérites de son Fils qui, de manière anticipée, préserve le corps et l'âme de la petite Marie dès le premier instant de sa conception par Joachim et Anne de l'absence de grâce, de cette tâche inversée du péché originel. Oui, nous nous trouvons dans l'Immaculée Conception, dans ce plan du salut, dans ce développement premier, pour permettre ce que Dieu avait prévu depuis la création du monde. Alors qu'il avait pris ce risque de créer les anges et de voir, selon la tradition, un tiers d'entre eux se révolter, conduit par Lucifer. Oui, il avait pris le risque de créer cette nature libre, cette intelligence, cette volonté, ce libre arbitre. Et il savait qu'il y aurait ce péché. Mais de toute éternité, voulant que sa grâce s'unisse à cette liberté pour être aimé en vérité et non pas dans la contrainte, il avait voulu la Vierge Marie. Il avait voulu l'Immaculée Conception. Il avait voulu la Nouvelle Ève. Il avait voulu la Mère et la Mère du Nouvel Adam. Alors, lorsque nous abordons ce carême, que nous savons que nous serons punis de nos péchés, comme la société sera punie de ses péchés, mais une punition, un mal, une souffrance qui pourront être transformées en mérite, qui pourront être transformées en patience et non pas seulement en résignation. Cette patience, cette offrande du pâtir pour que nous puissions ainsi racheter notre insouciance, notre malice, notre faiblesse accommodante. Oui, voilà pourquoi nous sommes dans cette entrée du carême, au début de cet enseignement du Christ, lorsque Lucifer veut le tenter parce qu'il ne le connaît pas, parce qu'il le teste, parce qu'il voudrait découvrir en lui ses défauts de l'homme, parce qu'il voudrait trouver en lui ce qui lui appartient, parce qu'il propose au Christ d'être Dieu après lui, que lui, Lucifer, soit adoré, et il lui promet tous les royaumes de la terre, parce qu'ils lui ont été donnés. Ce monde, avec sa puissance, avec ses royaumes, eh bien, le Christ pourtant l'a vaincu. Il l'a vaincu non seulement dans son ascèse, par le fait même que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Il l'a vaincu parce que il ne veut pas éprouver son Père. Il ne veut pas être comme Adam et Ève, à mettre Dieu à l'épreuve en se jetant du haut du temple. Il ne veut pas surtout adorer une créature, adorer un esprit jaloux, car c'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Oui, ce nouvel Adam va, tel un époux, sortir de sa tente nuptiale pour parcourir le chemin, comme nous dit le psaume, tel le soleil, ce chemin qui, du lever au coucher, va illuminer les âmes qui ne feront pas obstacle à sa lumière et à sa grâce. Et pour venir, et pour être l'un d'entre nous, c'est donc Marie, l'Immaculée Conception, qui va commencer ce plan du salut. Voilà pourquoi nous pouvons nous tourner vers ce que l'Esprit-Saint nous a dit depuis tant de siècles, vers ce magistère de l'Église, vers cette volonté du successeur de Pierre, du successeur des apôtres, de ce vicaire du Christ qui, s'effaçant de tout nom particulier, donne un enseignement toujours plus riche de cette présence de la Vierge Marie. Et j'oserais maintenant vous lire, comme vous prêcher, un texte qui est finalement mal connu. En effet, dans le texte Lumen Gentium, dans son chapitre 8 du Concile Vatican II, certains seront étonnés d'entendre cette réelle prédication du 21 novembre 1964. Écoutons donc. Chapitre 8, la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Église. Présentant la doctrine de l'Église en laquelle le divin Rédempteur opère notre salut, le Saint-Concile se propose de mettre avec soin en lumière, d'une part, le rôle de la Bienheureuse Vierge dans le mystère du Verbe incarné et du corps mystique qu'est l'Église, et d'autre part, les devoirs des hommes rachetés envers la Mère de Dieu, Mère du Christ et Mère des hommes, des croyants en premier lieu. Oui, en effet, ce mot de rédempteur qui vient du verbe émeré en latin acheter. Redemere, dans son participe passé, redemptum, c'est acheter à nouveau. Nous avons été perdus, nous avons gâché le prix de notre vie par le péché originel, et voici que Jésus va payer à nouveau le prix de la vie, le prix de la création. Ce prix, c'est l'amour de Dieu créateur. Ce prix, c'est l'amour du Dieu rédempteur, par son Fils, par le nouvel Isaac, par le véritable Isaac, par le nouvel Adam. Voilà ce que ce texte continue à nous dire. Les saintes écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament et la tradition vénérable mettent dans une lumière de plus en plus grande le rôle de la mère du Sauveur dans l'économie du salut et le proposent, pour ainsi dire, à notre contemplation. Les livres de l'Ancien Testament décrivent l'histoire du salut et la lente préparation de la venue du Christ au monde. Ces documents primitifs, tels qu'ils sont lus dans l'Église, et compris à la lumière de la révélation postérieure et complète, font apparaître progressivement, dans une plus parfaite clarté, la figure de la femme, mère du Rédempteur. Dans cette clarté, celle-ci se trouve prophétiquement esquissée, dans la promesse d'une victoire sur le serpent, promesse faite à nos premiers parents tombés dans le péché. De même, c'est elle, la Vierge, qui concevra et enfantera un fils, auquel sera donné le nom d'Emmanuel, Dieu au milieu de nous, Isaïe chapitre 7, Michée chapitre 5. Elle occupe la première place parmi ces humbles et ces pauvres du Seigneur qui espèrent et reçoivent le salut de lui avec confiance. Avec elle, la fille de Sion par excellence, après la lente attente de la promesse, s'accomplissent les temps et s'instaure l'économie nouvelle lorsque le Fils de Dieu prit d'elle la nature humaine pour libérer l'homme du péché par les mystères de sa chair. Oui, lorsque nous contemplons pendant ce carême, bientôt, après l'enseignement du Christ, toujours plus vertigineux et toujours opposé à plus de haine, la souffrance physique du Christ, le chemin de la croix, le Christ qui porte la croix et qui nous invite à la porter derrière lui. Cette chair, ses épaules, ses genoux, ses chutes, ce corps ont été donnés par la Vierge Marie. Et je continue, au numéro 56. Le Père des Miséricordes a voulu que l'incarnation fût précédée par une acceptation de la part de cette mère prédestinée, en sorte qu'une femme ayant contribué à l'œuvre de mort, de même une femme contribua aussi à la vie. Ce qui est vrai à un titre exceptionnel de la mère de Jésus, qui donna au monde la vie même qui renouvelle tout, et fut pourvue par Dieu de dons à la mesure d'une si grande tâche. Rien d'étonnant, par conséquent, à ce que l'usage ne soit établi chez les saints pères d'appeler la mère de Dieu la toute sainte, indemne de toute tâche du péché, ayant été pétrie par l'Esprit Saint, est formée comme une nouvelle créature, enrichie dès le premier instant de sa conception d'une sainteté éclatante, absolument unique. La Vierge de Nazareth est saluée par l'ange de l'Annonciation qui parle sur l'ordre de Dieu, pleine de grâce. Au messager céleste, elle fait elle-même cette réponse : voici la servante du Seigneur, qu'il en soit de moi selon ta parole. Ainsi, Marie, fille d'Adam, donna à la parole de Dieu son consentement, devient mère de Jésus et épousant à plein cœur, sans que nul péché ne la retienne, la divine volonté de salut, se livra elle-même intégralement comme la servante du Seigneur à la personne et à l'œuvre de son Fils, pour servir dans sa dépendance et avec lui, par la grâce du Dieu Tout-Puissant au mystère de la rédemption. C'est donc à juste titre que les pères de l'Église considèrent Marie comme apportant au salut des hommes, non pas seulement et simplement la coopération d'un instrument passif aux mains de Dieu, mais la liberté de sa foi et de son obéissance. En effet, dit saint Irénée, par son obéissance, elle est devenue pour elle-même et pour tout le genre humain cause de salut. Ainsi, avec lui, bon nombre d'anciens pères disent volontiers dans leurs prédications le nœud dû à la désobéissance d'Ève s'est dénoué par l'obéissance de Marie. Ce que la Vierge Ève avait noué par son incrédulité, la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi. Comparant Marie avec Ève, ils appellent Marie la mère des vivants et déclarent souvent « par elle la mort, par Marie la vie ». Fin de citation. Pourquoi essayer de paraphraser un texte aussi pur? Et quant à cette coopération, cum en latin, avec, c'est le titre extraordinaire et magnifique d'associer à la rédemption co-rédemptrice. Et voilà que dans le numéro 57, cette union de la mère avec son fils dans l'œuvre du salut est manifestée dès l'heure de la conception virginale du Christ jusqu'à sa mort sur la croix. Et d'abord, quand Marie, partant en hâte pour visiter Élisabeth, est saluée par celle-ci du nom de bienheureuse pour avoir cru au salut promis, tandis que le précurseur tressaillait au sein de sa mère, lors de la nativité ensuite, quand la Mère de Dieu présenta dans la joie aux pasteurs et aux bergers, aux mages, son fils premier-né, dont la naissance était non la perte, mais la consécration de son intégrité virginale, lorsque dans le temple, après avoir fait l'offrande des pauvres de deux colombes, elle présenta son fils au Seigneur, elle entendit prophétiser en même temps que le fils serait un signe de contradiction, et que l'âme de la mère serait transpercée d'un glaive. Voilà Marie, reine des martyrs. La souffrance de Marie au pied de la croix. La nouvelle Ève, la femme. Voilà la raison pour laquelle nous sont donnés ces textes des saints papes qui ont voulu dire cette réalité. Je vous les cite maintenant. L'idée de proclamer le caractère co-rédempteur de Marie, c'est-à-dire qu'elle participe au pouvoir rédempteur de son fils, unique médiateur entre son père et les hommes, est récurrent puisque le pape Pie XI en a parlé au début du siècle dernier. À des pèlerins de Vicenza en Italie, le 30 novembre 1933, il déclarait « Le Rédempteur se devait, par la force, d'associer sa mère à son œuvre. C'est pour cela que nous l'invoquons sous le titre de co-rédemptrice. » Pie XI. Elle nous a donné le Sauveur. Elle l'a conduit à son œuvre de rédemption jusqu'à la croix. Elle a partagé avec lui les souffrances de l'agonie et de la mort en laquelle Jésus consommait le rachat de tous les hommes. C'est précisément au pied de la croix, durant les derniers moments de sa vie, que le Rédempteur l'a proclamée notre mère et la mère de tous. « Voici ton fils, disait-il, en parlant de saint Jean, qui nous représentait tous. Et nous-mêmes, nous étions tous en cet apôtre pour recueillir ces autres paroles du Sauveur. Voici ta mère. » Benoît XV, avant Pie XI, dans une homélie de 1920, à l'occasion de la canonisation de Saint Gabriel de la Vierge Douloureuse et de Sainte Marguerite Marie Alacoque, la Sainte du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial, Benoît XV déclarait « Mais les souffrances de Jésus ne peuvent être séparées des peines de Marie. » Tout comme le premier Adam eut une femme comme complice dans sa rébellion contre Dieu, le nouvel Adam voulait qu'une femme partage son œuvre en rouvrant les portes du ciel aux hommes. De la croix, il s'adressa à sa mère douloureuse en tant que femme et la proclama la nouvelle Ève, la mère de tous les hommes pour qui il est mort afin qu'ils aient la vie. Voilà pourquoi Pie XII, dans sa constitution apostolique, Munificentissimus Deus, du 1er novembre 1950, dans laquelle il proclame Marie dans son Assomption, nous dit « Nous devons nous rappeler d'une manière particulière que dès les années 100, dès le IIe siècle, les saints pères ont désigné la Vierge Marie comme la nouvelle Ève, qui, bien que soumise au nouvel Adam, est intimement associée à lui dans une lutte contre l'ennemi infernal, et qui, comme l'avait annoncé le protévangile, a eu comme résultat final la victoire totale sur le péché et la mort, qui sont toujours mentionnés ensemble dans les écrits de saint Paul. La Vierge est intimement associée à son Fils dans ce combat contre l'ennemi infernal, ce qui aura comme résultat final la victoire totale sur le péché et la mort, sur la souffrance. Combien de ceux qui accompagnent les mourants, combien de ceux qui accompagnent les malades, et nous aurons une pensée particulière puisque nous sommes actuellement saisis d'une manière plus forte sur ceux qui ont la pneumonie due au coronavirus, et plus particulièrement des confrères de Paris depuis vendredi, et qui nous poussent à une prudence, qui pousse les hommes à l'inquiétude sans se tourner malheureusement vers Dieu, sans faire ces prières qui montaient vers le ciel à chaque épidémie, à chaque mot sur cette terre, alors même que dans cette année Sainte Geneviève, les reliques de Sainte Geneviève étaient en procession, présentes dans les rues de Paris, pour implorer la miséricorde de Dieu avec la participation des prières d'une femme qui, au Ve siècle, avait contribué au salut de cette ville. Oui, nous sommes avec cette tradition portée à nous tourner vers la Vierge Marie, co-rédemptrice. Comme le disait Paul VI dans sa Professio Fidei de 1968, Credo du peuple de Dieu, unie par un lien indissoluble au mystère de l'incarnation et de la rédemption, la bienheureuse Vierge Marie, l'Immaculée, ayant achevé le cours de sa vie terrestre, fut portée corps et âme à la gloire du ciel, où elle participe déjà à la gloire de la résurrection de son Fils, anticipant la résurrection des justes. Et nous croyons que la très sainte Mère de Dieu, la nouvelle Ève, Mère de l'Église, continue au ciel à exercer son office maternel à l'égard des membres du Christ, coopérant pour que les âmes rachetées naissent et grandissent dans la vie divine. Du 3 au 7 mai 2005, nombre de cardinaux et d'archevêques et d'évêques du monde entier s'étaient rassemblés à Fatima au Portugal pour un symposium sur Marie corédemptrice. À la fin de ce symposium, les cardinaux et évêques présents conclure unanimement pour la soumission et la signature d'une nouvelle proposition au pape Benoît XVI, en vue d'une définition dogmatique solennelle de Notre-Dame comme la mère spirituelle de tous les peuples, sous ses trois aspects de co-rédemptrice, médiatrice de toute grâce et avocate. Le cardinal Topo, coprésident du symposium de Fatima, écrivait « Ce samedi 3 juin 2006, j'ai eu le privilège d'avoir une audience privée avec Sa Sainteté le pape Benoît XVI. En demandant cette audience, mon intention première était de présenter au Saint-Père les actes des exposés théologiques du symposium de Fatima 2005 sur la co-rédemption de Marie, ainsi que sur le vœu écrit et signé par un nombre significatif de cardinaux et d'évêques qui requièrent la solennelle définition papale de Notre-Dame comme mère spirituelle de tous les hommes, co-rédemptrice, médiatrice de toute grâce et avocate. Durant nos 15 minutes d'audience, le Saint-Père a reçu le vœu avec un vif intérêt. Il fut surpris que tant de cardinaux et d'évêques avaient signé. Il examina alors brièvement le texte et dit qu'il voulait lire ses actes afin de les transmettre à la Congrégation pour la doctrine de la foi pour examen. Le pape Benoît XVI, comme le pape François, sont prudents, car la définition d'un dogme engage l'infaillibilité de l'Église. Mais nous ne devons pas nous lasser lorsque nous sommes enfants d'une mère, lorsque, nous, avec saint Bernard, nous disons que de la Vierge Marie, on ne dit jamais assez. Lorsqu'avec saint Bernard, nous disons que la Vierge Marie est le cou de l'Église et que de la tête unique, de l'unique médiateur, viennent les grâces et les mérites de l'infini de l'agneau de Dieu crucifié par ce cou si simple et indispensable. Eh bien, que nous puissions, avec piété, pour terminer, nous tourner vers une apparition. Pour ne pas trop personnaliser cette conférence, j'aurais pu l'éviter, mais je ne peux pas. C'est la raison pour laquelle je me tourne vers ce qui nous a été donné. Lorsque Monseigneur Joseph Maria Punt, évêque de Haarlem, Amsterdam, qui est toujours l'évêque alors qu'il a été nommé en 2001, après de longs examens contradictoires et des querelles jusqu'à la Congrégation pour la doctrine de la foi, le 31 mai 2002, il a reconnu comme authentique et digne de foi les messages et les apparitions de la Dame de tous les peuples, du 25 mars 1945 au 31 mai 1959, auprès d'une femme pleine d'humilité, Ida Fiderman. Et nous devons être attentifs au fait que cette Congrégation pour la doctrine de la foi en 2006 ait accepté une prière venant de cette apparition. Nous devons être attentifs sur le fait que cette même apparition décrite par Ida a été reproduite dans une statue qu'une religieuse d'un institut eucharistique, d'adoration eucharistique, a fait reproduire à Akita, au Japon, dans des locutions reconnues également par l'évêque du lieu. Et donc, de nous pencher sur ces messages de la Vierge Marie, Dame de tous les peuples. En effet, le 25 mars 1945, en la fête de l'Annonciation, la Vierge Marie apparaît à une femme toute simple, Ida Federman, morte en 1996. qui habite à Amsterdam avec ses sœurs. C'est la première de 56 apparitions qui vont se succéder entre 45 et 59. La dame de tous les peuples demande un nouveau dogme, explicitement. Ce nouveau dogme est expliqué par l'image de Notre-Dame de tous les peuples et par quelque autre message. J'ai souffert avec mon fils, dit-elle le 1er avril 1951. Souffert spirituellement, mais aussi, mais surtout, souffert corporellement. Mon enfant, comme lui, j'ai souffert. Comme mère du Fils de l'homme, répète cela exactement. Le 31 mai 1951, je me tiens là et je viens te dire que je veux être Marie, la dame de tous les peuples. Regarde bien. Je me tiens devant la croix du Rédempteur. Ma tête, mes mains et mes pieds pareils à ceux de l'être humain, pareils à ceux du Fils de l'homme. Mon corps ressorti à la nature de l'esprit. Mes pieds sont solidement posés sur le sol parce que le Père et le Fils veulent, en ce temps-ci, m'envoyer en ce monde en qualité de co-rédemptrice, médiatrice et avocate. Et tel sera l'objet du nouveau et dernier dogme marial. L'image doit précéder le dogme. Le dogme sera fortement contesté, mais il sera promulgué. J'ai insisté sur ces choses afin de les définir clairement. J'y reviens encore une fois pour que tu puisses toi-même les faire passer à ton directeur spirituel et aux théologiens. Le 15 novembre 1951, elle lui dira encore « Co-rédemptrice, je le fus dès l'Annonciation. » Alors, un peu de mystique pour terminer cette conférence, mais vous devez vous souvenir qu'en citant les textes dogmatiques et en citant les volontés et les souhaits des saints papes, nous devons nous tourner vers le cœur sacré de Jésus pour que sa mère soit honorée. Et c'est sa volonté. Lorsqu'il a dit à Sœur Lucie de Fatima qu'il voulait que le cœur immaculé de sa mère soit associé à son sacré cœur et que c'était sa volonté. Alors que notre prière, que notre chapelet pendant ce carême puisse obtenir cette grâce et que nous puissions, avec la Vierge Marie, supporter nos peurs, nos souffrances physiques et morales, que nous puissions porter nos croix, que nous puissions avoir un cœur parfois traversé par le glaive, et pour que nous puissions compléter dans notre corps, comme le dit saint Paul, ce qui manque à la passion du Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.